La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Salut, Yves. Hey, un peu plus tard, à la fin de l'émission, je vais recevoir Daniel Lamarre, l'ancien chef de direction du Cirque du Soleil, qui a passé le flambeau. Ça doit être difficile hein, quand tu as dirigé un organisme comme ça pendant si longtemps. Là.
Mais j'ai des bonnes questions pour lui. Je te les enverrai tantôt.
OK, ben oui, certainement.
Parce que, évidemment, bon, parlons du cirque maintenant. Donc, hier, l'annonce a été faite. Là, on a eu l'avis média quelques heures avant. Donc, Daniel Lamarre cède sa place à un comptable, Stéphane Lefebvre, qui était actuellement le chef de l'exploitation du groupe. Donc, après presque 20 ans à la tête du cirque, là, donc Daniel Lamarre quitte la direction, mais il reste quand même présent là, comme dans le conseil d'administration. Bon, tu te rappelleras là, que bon, toute l'histoire du Cirque du Soleil, là, il y a quand même encore beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Là. Bon, évidemment, là, tu vois, déjà, le Cirque du Soleil est un peu sur la défensive, là, dans le sens que suite, il arrive la question du siège social. Inquiétez-vous pas, on nomme un francophone, etc. Mais la réalité, là, c'est que l'actionnaire principal, c'est Catalyst Group, qui est un groupe de financiers. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, là, c'est plus des artistes qui sont à la tête du cirque, c'est des comptables, des financiers. Et ça, là, d'un matin, là, c'est un signe que d'abord, c'est la rentabilité qui va être de l'avant. Là, et donc, tu sais, à un moment, Catalyst, là, quand ils vont décider qu'ils ont donné suffisamment de valeur au groupe, parce que ça, c'est des groupes, des fonds vautours, qu'on appelle, eux autres, ils augmentent la valeur de cette entreprise-là, puis quand ils voient là, que c'est parfait, qu'ils peuvent faire un profit, ils vont vendre cette entreprise-là. Or, demain matin, là, si le soleil est vendu à un grand groupe mondial, le siège social du Québec, là, ce ne sera pas déterminant. Donc, il y a encore beaucoup de questions autour du Cirque du Soleil qui n'ont pas été répondues.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, qu'avant, c'était des créateurs qui étaient à la tête du cirque. Maintenant, ce sont des comptables. Il y a beaucoup de réalisateurs de films qui se plaignent de ça à Hollywood. Hein. Dans les années 70, les grands studios étaient dirigés par des gens qui aimaient le cinéma, qui tripaient sur le cinéma. Aujourd'hui, c'est dirigé par des comptables. Ça fait partie de très gros conglomérats. Et ça fait qu'on a des films qui sont comme des bébelles, là, des produits de consommation, qui n'ont pas vraiment de personnalité, tout ça. Et les gens se plaignent en disant, ben là, les grands patrons, c'est rien que des comptables. Tout ce qui les intéresse, c'est les chiffres. C'est tout. C'est un peu la même chose avec le Cirque du Soleil. Ça va être une bonne question à poser ça, à M. Lamarre. Écoute, tu veux parler, Yves, des milliards de dollars pour mettre le Québec au travail.
Donc, hier, évidemment, c'était la grande opération média là, de François Legault et de Jean Boulet, qui est ministre du Travail. Donc, ils ont lancé l'opération main d'œuvre. Et donc, ce qu'ils prévoient, là, c'est, bon, il y a plusieurs mesures, là. Il y en a presque 85 mesures pour combler les 170 postes là, stratégiques pour lesquels il n'y a pas de travailleurs. Je te rappellerai que le gouvernement va mettre 3,9 milliards, hein, d'argent pour la formation puis combler ces postes-là. Mais là, hier, une des mesures, c'est que les chômeurs puis les bénéficiaires de l'aide sociale auront le droit à une allocation de 475 $ par semaine, puis en plus des bourses généreuses pour rester sur le banc d'école. Donc, le gouvernement pourrait ainsi payer un chômeur jusqu'à 30 000 $ par année pour se faire former. Or, écoute, on est vraiment rendu à un enjeu vraiment stratégique. Je te rappellerai, tu sais, récemment on a parlé que le Québec va frapper un mur d'ici 2030, là, parce qu'on va se retrouver avec 1,4 million de postes vacants. Et donc, les mesures doivent être prises comme maintenant. Et puis actuellement, là, 80 de ces postes-là sont créés par des départs à la retraite. Là. On va se retrouver avec une main-d'œuvre active là, des 15 à 64 ans là, qui va être en bas du 60% en 2030. Là. Les mesures doivent être prises. Puis là, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est qu'on va combler ça par une augmentation de la hausse du taux d'activité des 15 à 64. 22% de tout ça, ça va être l'immigration. 8% va être comblé par des personnes de 65 ans et plus qui vont travailler plus. Puis 54% des jeunes qui vont intégrer le marché du travail au cours de la prochaine année, mais qui vont devoir être formés selon les besoins du marché. Puis là, on a besoin du monde dans les services sociaux, dans le secteur de la santé, écoute, la construction, les technologies de l'information, puis génie civil. Donc, une tâche titanesque, là.
Ben,
je pense que c'est pas juste le gouvernement, ça va être les entreprises, les individus aussi, parce que la réalité, c'est qu'il va falloir être en formation continue, le marché du travail change. Donc, tout un défi. Moi, je pense que c'est une priorité majeure, parce que ce qui arrive, là, si c'est pas la croissance de nos entreprises, ça va être une décroissance, et tout ce qui suit de la décroissance, ben, c'est pas bien bon pour... l'impôt, puis pas bon l'impôt, ben pas pour les finances publiques.
Ben, et Yves, comme tu le dis souvent, avec raison, tout ça était prévisible. Les départs à la retraite, tout ça était prévisible il y a plusieurs années de ça. Puis on a attendu d'être dans marde pour réagir, et c'est vraiment trop tard.
Richard, je te rappellerai, là, ce qui m'a frappé, c'est en 2015, le ministère du Travail avait émis des statistiques, puis écoute, ils ont même pas vu la pyramide inversée, là, et ils disaient qu'en 2021, il n'y aurait pas de pénurie de main-d'œuvre, en 2015. Et là, tu vois, les études disent, on frappe un mur en dette 2030, puis là, ben, je pense que l'idée, c'est au-delà des statistiques, là, la réalité de l'économie réelle, le monde le voit. Les entreprises trouvent pas de monde, puis sont obligées de réduire leur activité ou refuser des contrats parce qu'ils sont pas capables. Quand on a eu le cas d'une usine au Québec, flambant en œuvre, qui attend d'ouvrir parce qu'ils n'ont pas de travailleurs.
Ça n'a pas d'allure.
Ça tient pas là-bas.
Non, ça n'a pas d'allure. Des stations-service encore trop gourmandes.
Ça, c'est vraiment fascinant, tout ça. Là. Puis, tu regardes, même aux États-Unis, Richard, il y a deux semaines, là, le président Biden, là, a demandé au bureau de la concurrence américaine là, d'étudier pourquoi il y avait un décalage entre le prix de l'essence si cher aux États-Unis puis le cours du pétrole qui est en baisse. Et là, Biden n'est pas vraiment content de ça. Ben, au Québec, la CAA, là, qui est l'organisme là, des automobilistes, là, vient sortir en disant il y a un décalage important entre la question justement de la baisse du prix du pétrole puis la marge bénéficiaire que les stations d'essence prennent. Actuellement, les marges bénéficiaires que se prennent les stations d'essence, là, écoute, à Québec, là, c'est 15 cents du litre, puis à Montréal, c'est 9 cents du litre, alors que normalement, la moyenne est 5,5. Donc, ce que dit CA aujourd'hui, là, c'est que vous devriez encore baisser plus le prix de l'essence, parce qu'actuellement, vous prenez bien plus de profit que normalement. Et donc, c'est un très bon message de CA Québec ce matin. Et ce qui est fascinant dans tout ça, là, c'est que quand ils vont vite pour augmenter à des périodes X, comme dans le temps de Noël, là, c'est juste le 31 décembre quand les gens vont aller voyager en famille, là. Mm-hmm. Mais quand ça baisse, ils ne sont pas prêts à lui donner rapidement.
Ben donc, oui.
Les stations essence pratiquent comme des politiques un peu dichotomiques là, quand il arrive la question du prix de l'essence. Qu'est-ce qu'ils doivent redonner aux automobilistes.
Et en terminant, Yves, notre ami Pierre Fitzgibbon se retrouve encore dans l'eau chaude là, suite à un texte justement qui est paru dans la section argent. Là, son pouvoir discrétionnaire dans le cadre du programme Pacte, il pouvait donner de l'argent, certaines subventions à des entreprises. Si ces entreprises-là, elles devaient respecter certaines conditions, mais lui, M. Fitzgibbon, donnait quand même des subventions, même si les entreprises ne respectaient pas les conditions. Et là, il y a le Parti libéral qui veut avoir des réponses à leurs questions. Là.
En fait, là, je rappellerai aux auditeurs là, que Pierre Fitzgibbon a intervenu là, dans leur fraude de prêt de totalisant 68 millions à 10 entreprises qui ne répondaient pas aux critères du programme. Donc, évidemment, tout le monde veut savoir c'est qui cette liste des 10 entreprises-là. Jusqu'à date, le gouvernement du Québec a dit qu'il n'était pas question qu'il dévoile cette liste-là, même à l'Assemblée nationale. Ils ont refusé tout simplement. Et là, le député libéral Montsef Deragini, qui est porte-parole économique là, pour le Parti libéral, veut demander à Fitzgibbon d'être devant la commission de l'économie et du travail pour que les parlementaires puissent y poser des questions sur cela. Donc, on verra là, s'il va accepter de participer à ce jeu parlementaire, mais entre moi et toi, les chances sont relativement minces qui vont vouloir être interrogés par les parlementaires là-dessus.
Parce que ce programme-là disait, on va aider les entreprises, mais les entreprises, vous devez prouver que vous étiez rentable avant la pandémie, là, parce qu'on veut pas donner de l'argent à des canards boiteux. Là. Vous étiez rentable avant la pandémie. Or, lui, M. Fitzgibbon, a donné de l'argent à 10 entreprises qui n'étaient pas rentables avant la pandémie. Et là, les gens se demandent, il est cow-boy. Hein? J'ai lu ça, là, c'est un éditorial dans Le Devoir, je pense, où on disait, là, c'est un cow-boy. Le gars, là, il veut rien savoir. il aime ça, faire les choses à sa façon.
Ben, tu sais, bon, oublie pas, tu sais, le principe du baseball, une prise, deux prises, trois prises, théâtre. Mmh. Jusqu'à date, il en a eu deux, là. Deux fois, le commissaire à l'éthique lui a tapé ses doigts. Là, on verra ce qui va se passer avec ce dossier-là des 10 entreprises. Mais, moi, ce qui me fascine, c'est qu'est-ce qu'il y a à cacher? S'il n'y a pas de trouble, pourquoi il les dévoile pas, ces 10 entreprises-là?
Ben oui. Non, et puis il n'y a rien de pire en politique que donner l'impression que tu caches des choses. Ça n'a pas d'allure. Mais on dirait c'est tout le temps le même problème avec M. Fitzgibbon, puis vous l'avez souvent écrit, puis Michel Girard l'a souvent écrit dans ses chroniques, c'est que on dirait que les lois s'appliquent pas à lui. Tu sais, quand c'est M. Fitzgibbon qui fait quelque chose, ça devient nécessairement légal.
Mais l'idée, c'est qu'il dit qu'il faut être flexible, puis il faut quand il y a des normes, des programmes. Mais tu sais, l'élastique semble assez grand pour lui pour cette flexibilité-là. Ce qui est important, c'est de savoir, je pense que ce qui est important pour M. Fitzgibbon, quand il connaît quand même l'économie, c'est il faut pas qu'il y ait moins une soupçon de conflit d'intérêt. Tu sais, là, il l'a vécu. Ça fait que la question, c'est pourquoi il y a de la gêne à dévoiler les 10 entreprises?
Ben oui. Non, c'est un peu bizarre. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée.
Bye. 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 Bye.